Eh bien, bonjour, chers auditeurices. Émission carte blanche aujourd'hui. Nico au micro et une émission qu'on prépare depuis un moment avec Philippe Capard ici dans le tuyau. Salut Philippe.
Ouais, salut Nicolas.
Parce que voilà, tu as créé avec trois autres personnes Blowbook, une maison d'édition qui vient squatter l'ULB là depuis septembre, et on s'est dit c'est l'occasion de venir faire des émissions pour parler des auteurs et des autrices, mais aussi du couteau suisse qu'est Blowbook, de tous les sujets qui sont là, et puis aussi de discuter en dehors de c'est un livre, c'est de la bande dessinée, c'est quand même un petit objet qui se trouve dans des distributeurs comme des distributeurs de soda, mais fait pour des tailles de livres. Tout un projet qui existe depuis 2019, on va revenir dessus. Mais quand même, si on fait cette émission à Radio Campus, c'est pour essayer de dynamiser ce campus entre les livres, le fait de discuter des livres. La première machine est au bâtiment F1, donc voilà, en dessous de Radio Campus, coincée à côté d'une machine de soda. Et donc, il y aura une machine pour acheter des livres à 5 euros. Le livre, ils ont tous le même format, le même nombre de pages. On va y revenir de d'où ça vient. Blowbook.be si vous êtes déjà curieux, curieuse. Les partenaires, en fait, c'est ULB Culture qui, du coup, a pris aussi a répondu à l'appel de Blowbook de travailler ensemble, de sortir des sentiers battus. Une des choses que moi j'aime beaucoup dans Blowbook, c'est l'idée de sortir des librairies aussi, de remettre le livre dans un espace public. Et de le rendre accessible, je trouve le fait que ça soit à 5 euros, j'adore ça aussi. Parler aussi du partenaire qui est en fait le partenaire machine, parce qu'en fait l'idée d'avoir des distributeurs, qui est prêt à mettre des livres, des petits livres dans des machines et en essayer de les faire vivre. Là c'est Finest Globe qui sont là, et donc voilà votre nouveau partenaire. Je pourrais même dire notre nouveau partenaire, je suis un peu partie prenante ces derniers temps de Blowbook, donc je ne suis pas du tout tout à fait blanc de tout ça, mais je suis dans cette idée du couteau suisse, nous sommes plein de petits outils. Donc c'est parti pour cette première carte blanche, on va revenir sur les deux premiers Blowbook qui ont été créés, et l'idée sur les prochaines semaines et mois, ça va être de traverser du coup les 12 titres présents, et même il y en aura deux nouveaux si tout se passe bien. Le numéro 13 et 14 quoi, Antoine Paris et Mazrel, mais ça c'est juste pour vous teaser ça. Un petit morceau d'un groupe finlandais imprononçable qui est en fait plein de personnes qui font de la musique sur synthétiseur et qui font des boucles eux-mêmes, et je trouvais que ça parlait bien de Blowbook, d'être toute une série d'acteurs, d'actrices qui font ça à la main pour quand même faire des objets qui pourraient ressembler, qui sont des objets un peu industriels, produits à 3000 exemplaires les Blowbook, mais où il y a beaucoup, beaucoup d'huile de coude.
We'll be right back.
qu'on écoute, il n'y a aucune boucle, hein, tout est fait manuellement. Philippe Capard, quand même dire deux mots sur toi. Passionné de bande dessinée, dessin animé aussi. Tu as tenu pendant une dizaine d'années la librairie La Kryptonite, qui avait aussi un magazine, La Kryptonique, où il y a eu 16 numéros. Je crois que le dernier est sorti cet été, le numéro 16, je crois. Zozo. Mais aujourd'hui, on va surtout parler de Bluebook. D'où vient l'idée de Bluebook? D'où ça vient?
Ça vient de loin. Et ça vient, il y a une source, ça c'est agréable, il y a une source bien précise, on ne sait pas trop d'où naissent les choses, mais ici on le sait très bien. Et la personne s'appelle Alfred Mazur, un Hollandais. Et la naissance de ces petits livres, une image par page, de 200 pages, sous un format populaire, est née en 1941 par Alfred Mazur, avec un personnage qui s'appelait Dick Boss. Uniquement limité à la Hollande, c'est-à-dire que c'est des livres qui n'ont pas ou très peu débordé des frontières, très très célèbres en Hollande, inconnus au bataillon ailleurs, et donc le premier Blue Book qu'on a réalisé est d'Alfred Mazur. On a pris un de ses titres, et c'est à la fois un hommage et un honneur pour nous de l'éditer.
Il datait de quand, cet exemplaire-là ?
Celui qu'on édite date de 42, mm-hmm. et l'idée date de 41.
Parce qu'il y a le truc, est-ce qu'il était connu, son personnage était connu même quand c'était des planches ? Parce que là, il y a l'idée, si je ne me trompe pas, qu'à un moment, crise du papier, il va couper sa planche.
Oui, oui, je vais développer tout ça, mais il paraissait d'abord sous une forme de bande dans des périodiques, et très vite, Mazur a voulu pérenniser ce qu'il avait fait sous une forme de récit complet.
Okay.
Et dans ce cadre-là, c'est pas le premier livre qu'il fait sous cette forme-là, il va inventer ce format 12 cm x 8 qui est repris par Blue Book. Ce qui est assez passionnant avec Mazur, c'est qu'une fois qu'on parle de lui, on parle de beaucoup de choses, parce qu'il était multitask et une personnalité assez bougeante. L'imprudent qui s'aventure à parler de bande dessinée finit toujours par parler de tout. Je cite Guy Gauthier, un critique de cinéma. Il est cité dans un article de Sud-Ouest du 29 janvier 1970 à l'occasion d'une exposition organisée sur la bande dessinée à Bordeaux. À la source de cet événement de Bordeaux, il y avait un homme qui s'appelait Pierre Pascal, qui tenait un restaurant avec son épouse et qui va être un des acteurs essentiels de l'essor du Salon d'Angoulême. Il y a collaboré dès l'édition numéro 1, en 74, jusqu'à celle de 88, date de l'ouverture du musée de la bande dessinée en France, donc de l'institutionnalisation de la bande dessinée, en 88, et lui est parti par la petite porte faire un autre festival à Grenoble pour se venger. Pascal était un des membres, Pierre Pascal était un des membres du club des bandes dessinées. C'était en 1962, un groupe de lecteurs, une génération de lecteurs enthousiastes, nés entre 28 et 32, ont démarré en 62 un BD club, comme il a existé des ciné clubs, avec la double mission montrer des créations passées et favoriser des créations contemporaines. Alors vous connaissez peut-être le résultat ou les fruits de ça, c'est Barbarella de Jean-Claude Forest, Jodel de Pierre Barthier et Guy Pellart, ou encore Epoxy de Jean Van Am et Paul Cuvelier. Et c'est un peu le fruit de ce club moderne de vieux garçons qui démarre sur un objectif nostalgique de relire leur lecture des années 30, coupé par l'occupation, et à la fois de découvrir des nouveaux auteurs. Et dans ce club, il n'y avait pas que des collectionneurs, il y avait aussi des auteurs, dont Forest ou dont Alain René, le cinéaste français. Alors, je digresse, mais c'est, comme disait la citation, on finit toujours par parler de tout quand on parle de bande dessinée. Mais pour terminer avec Pierre Pascal et ma citation d'ouverture, voici l'objectif que Pascal s'était fixé pour l'exposition de ses originaux à Bordeaux, donc cette exposition de Bordeaux 1970. Je le cite. « La bande dessinée connaît ses chefs-d'œuvre. mais aussi ses œuvres médiocres. J'ai voulu montrer que dans ce genre aussi, il y a une différence entre l'infiniment bon et l'infiniment mauvais. L'extrait vient de Grâce aux collections de Pierre Bascal, la CRDP présente la première exposition de bande dessinée par l'Éducation nationale, dans le journal France du 20 janvier 70. Donc, il distingue entre l'infiniment bon et l'infiniment mauvais, ce qui est audacieux. Et alors, à la croisée, et c'est là que je retombe sur mes pattes, plus ou moins, à la croisée de l'infiniment bon et de l'infiniment mauvais, nous avons Alfred Mazur. Son héros Dick Boss, qu'on traduirait par le détective Monsieur Bois, était édité dès 1941 dans des livres de la taille d'un paquet de cigarettes ou de cartes à jouer, 12 cm x 8, et tenait dans une poche. Imaginez un livre de poche qui tient réellement dans une poche, comme un bréviaire ou un manuel scout qu'on peut placer sur sa petite poche frontale. L'articulation de ces livres était, et c'est ça qui à mon avis est révolutionnaire, d'une case par page. Les bagarres, dans les récits de Mazur, nombreuses, étaient entrecoupées de longues tirades, tapées à la machine, dans d'impressionnants phylactères rectangulaires. C'est presque, si vous voyez une case de Dick Boss parlante, ça va être presque un volet de texte et des personnages minuscules en bas, où finalement c'est une sorte de littérature déguisée, enfin en tout cas de texte avec juste un personnage.
Un petit visage en bas, c'est ça, ouais.
Voilà, ça vaut la peine vraiment de se plonger dans son travail. L'énorme succès de ces petits livres avait attiré comme du miel les éducateurs hollandais. Ils vont caractériser ces livres de schoonlitterature ou littérature ordurière, un terme que les Hollandais partageaient avec les Allemands pour qualifier les publications immorales et corrompues. Les Américains parleraient de trash ou de pulp, qu'on connaît bien avec Pulp Fiction. Mais bien avant la loi française, il y a une célèbre loi française de censure, de protection de la jeunesse, justement pour éviter de corrompre les jeunes têtes blondes. Mais avant cette loi de 49, il y a eu une croisade anti-comics américaine qui s'est cristallisée un peu plus tard en 54 avec la Sédition des Innocents. Et la République, ce que j'ai appris en faisant cette émission, la République de Weimar avait adopté le 3 décembre 1926 la loi pour la protection de la jeunesse contre la littérature obscène et vulgaire. Donc toujours cette schundlittérature. Donc Alfred Mazur fait l'objet de ces critiques d'éducateurs qui se rendent compte que les enfants ont l'air bien trop excités dans un livre pour que ça soit moral.
Donc, alors que c'est quand même des histoires d'enquête, on est sur et un peu de bagarre.
Oui, oui, et Mazur, le personnage qu'il invente de Dick Boss, qui était détective Monsieur Bois, est boy scout, c'est-à-dire ouais. il est du côté du bien, pas d'ambiguïté, et il n'est pas agressif parce qu'il pratique du jiu-jitsu, donc il est défensif et il met les méchants en tôle. C'est vraiment plus moral que ça, c'est pas facile. Mais Alfred Mazur avait trouvé la parade aux critiques, nombreuses qu'il pourrait recevoir de ses compatriotes hollandais, plutôt conservateurs, sur ses petites bandes dessinées de 220 pages qu'il réalisait sur sa table à manger en 6 jours. Parce qu'il travaille très vite, Alfred Mazur. Voilà une citation de Mazur. Je vais la dire en néerlandais puis je vais la traduire. Dick Boss named himself niet ernstig. He wait that himself niet bestaat. Alors, ça donne ceci en traduction. Dick Boss ne se prend pas au sérieux. Il sait qu'il n'existe pas. Et par ce biais-là, il a trouvé un peu la parade et il botte en touche et se moque de ces gens qui prennent au sérieux un personnage qui lui-même ne se prend pas au sérieux. Et les enfants ont tous très bien compris le non-sérieux de la chose. On appelle ça des comics. Alors, Dick Boss par Alfred Mazur, je vais un petit peu revenir sur qui était l'auteur, parce que c'est vraiment une personnalité intéressante. Il est né en Hollande en 1914, même âge qu'une autre figure plus connue peut-être des lecteurs de bande dessinée en Belgique, c'est Joseph Gilin, dit Gigé. Les deux hommes sont nés la même année. Tous les deux semblent avoir en commun l'attrait du mouvement, la dextérité du geste et des fourmis dans les jambes. Mazur se caractérise, jeune étudiant dans un collège jésuite, comme aussi indomptable qu'un sac de serpents aveugle. Alors, l'image est assez forte, mais vous verrez les dessins de Mazur, vous comprendrez que ça bouge. À 19 ans, il réalise une bande dessinée dans les journaux, dont de New Utrecht Courant, reprise dans un format pré-comic book, donc avant que les comic books montent, donc ces petits récits qui finalement sont des magazines de petit format où apparu Superman en 38. Il avait réalisé déjà une sorte de pré-comic book, on est en 1935, qui s'appelait De Chef. Les cases identiques, donc il travaillait des cases identiques comme l'est l'écran du cinéma, et je pense que l'influence du cinéma est très forte, et le cinéma des années 30 est passionnant, bien sûr, pour, au niveau du récit et de la mise en scène. Mazur a clairement beaucoup de talent, il n'est pas du type à pinailler sur un dessin, on vous parlait de 6 jours pour faire 220 pages sur sa table de cuisine, où sans doute il enlevait ses planches pour mettre ses tartines et puis il reprenait un petit peu après. Il brosse ses dessins, c'est vraiment brossé, ce qui va avec l'action. Et l'époque de son démarrage est liée aux bandes dessinées réalistes. Certains d'entre vous connaissent peut-être Jim la Jungle ou Flash Gordon d'Alex Raymond. Tout d'un coup, il y avait des séries à suivre plutôt réalistes qui cessaient d'être des gags et qui devenaient épiques. Il y avait une autre bande dessinée moins connue, mais très proche de l'esthétique de Maz, même si je ne pense pas qu'il y ait une influence directe, qui s'appelait L'Inspector Wade de Lyman Anderson, même époque. Donc Maz débarque en 1934, mais n'est pas à la traîne. Il est réellement dans un courant. Et la bande dessinée, comme on n'en le sait pas souvent ou qu'on n'en parle pas assez, c'est un phénomène mondial. Il est un peu ridicule de parler d'une bande dessinée locale dans le sens où tout s'influence, et ce depuis très longtemps, depuis le 19e.
Je crois qu'on dit aussi les comics américains, c'est 33 je crois aussi.
En fait, il y a la grosse influence de la bande dessinée avec les bandes dessinées à suivre dans les années 30. Ça s'est passé à partir de 34. Le point marquant pour la France et pour la francophonie, c'est l'importation de Flash Gordon, de toutes les bandes dessinées américaines, Opera Mundi, mais presque en temps direct, et qui ont donné 3 journaux. Il y a eu le journal de Mickey qui publiait ça, il y avait Robinson, et il y avait un journal qui s'appelait Hopla. Et c'est ces 3 journaux-là qui ont motivé, on parlait d'un club de vieux garçons, le club des bandes dessinées dans les années 60, et ça c'était leur lecture. Eux étant nés entre 28 et 32.
Oui, dans les années 30, ils ont une bonne dizaine d'années. Quoi. Ils sont...
Oui, et ça ne dépasse pas ça. C'est-à-dire que c'est vraiment des gens qui ont été marqués au fer rouge à une certaine époque. Mm-hmm. Et les autres, nés après ou nés avant, n'ont pas tellement compris ce qui leur est arrivé. Et eux ont voulu communiquer. C'est un peu comme un trauma à la fois négatif et positif. Et ils ont essayé d'en parler une fois qu'ils étaient adultes.
Jeunes adultes, c'est vrai.
Alors, lorsque la Deuxième Guerre mondiale éclate, Maz a démarré la bande dessinée Dick Boss, donc celle que le Blue Book va éditer, mais dans une revue généraliste, genre Paris Match Batave. Ça s'appelait The Prince. Et alors, pour garder, ça se passait en bande, comme on parle de bande dessinée, souvent c'est un strip, donc une bande ou deux bandes l'une sur l'autre. C'est un peu comme deux étages de dessins qui se suivent. Lui travaillait avec un système de gaufrier, donc les cases étaient identique, comme je parlais d'écran de cinéma. Et alors, pour garder, lui, trace, parce qu'il va très vite, et je pense que parfois, il oubliait un petit peu ce qu'il avait dessiné 3 semaines plus tôt, donc pour suivre l'évolution de son récit, il découpe chaque case de sa bande parue dans The Prince, donc il achetait des exemplaires et il découpait dans sa bande dessinée, et il la glisse, il glisse les extraits de manière chronologique dans un petit agenda personnel. Il avait un petit agenda de poche, il glisse les images, et ça lui permet de savoir où il en est dans sa narration qu'il fabrique à la petite semaine. Alors en feuilletant cet agenda, une image par page, il se rend compte que ça se lit avec plaisir. L'articulation en bande dessinée est réduite à sa plus simple expression, 2 images se font face dans la double page. Donc on a l'articulation en images, avec S, donc on a 2 images, 2 figures, 2 pages, et c'est par la comparaison, par la connexion, par l'interaction, par le conflit entre deux visuels que l'étincelle narration se propage. Donc il est au cœur, avec ce petit système, il est vraiment au cœur de la narration de bande dessinée. C'est vraiment un concentré de bande dessinée. Il est, à mon avis, très content de sa découverte. Il propose ça à l'éditeur de Prince, donc qui faisait ce Paris Match version hollandaise, d'éditer ses petits livres. Vu qu'eux-mêmes avaient déjà publié dans leur page la bande, ils se disaient, voilà, ça vous revient à vous d'avoir l'honneur de faire ces petits livres. Ça convenait aussi parfaitement, l'idée de petits livres, au contexte de rationnement de papier sous l'occupation. Donc il n'était pas question de faire des grands formats. On parlait des bandes dessinées Robinson en plat tout à l'heure. Ces bandes dessinées étaient comme des vrais journaux. C'était très grand. C'était plus grand qu'un A3. C'était vraiment comme un journal de papa pour l'enfant ou même pour les adultes, parce que les bandes dessinées s'adressaient aux États-Unis à un public général. Donc ici, c'était petit. Donc pénurie de papier, ça permettait de louvoyer. Et alors, surprise, The Prince refuse. Et ils arrêtent même la publication de Dick Boss. Donc à la fois, ils découvrent qu'il était uniquement toléré comme un divertissement nécessaire dans The Prince, mais avec la réduction de pages, parce que tous les journaux ont dû un petit peu se serrer la ceinture, il était conduit. Et si je fais encore un petit aparté, souvent, dans la presse, l'article presse qui s'appelle bande dessinée a souvent été méprisé. Parce que en effet, ça fait vendre les journaux, mais les journalistes sont pas très contents de savoir que c'est plutôt la petite fiction de la personne qui glisse sur une peau de banane qui fait vendre le journal, plutôt que leur article d'enquête sérieuse et littéraire, littéralement agencé. Donc il y a eu ça, pour prendre une anecdote avec René Goscinny, qui était furieux, parce qu'il y a un moment où il a retiré Astérix, qu'il faisait avec son ami Uderzo, du journal Pilote, qui devenait quelque chose auquel il ne se trouvait plus d'atomes crochus, et il l'a placé dans le Figaro. Et le Figaro a fait des bons dans son tirage monumentaux, parce que ce n'était plus dans Pilote, ce n'était plus nulle part, et le nouveau récit, avant qu'il sorte sous la forme album, pouvait être lu tout l'été dans le Figaro. Et Goscinny, pourquoi est-ce qu'il était furieux? Il était content de toucher un public plus large par le Figaro, mais il était furieux parce que le Figaro n'admettait pas que le bon dans la vente correspondait à cette futilité pour beaucoup de Astérix et Obélix et de leur bagarre à coups de potions magiques. Je pense qu'il arrive un petit peu la même chose avec Alfred Mazur, avec The Prince. Donc, Alfred Mazur se décompose pas. Hein. Je crois qu'on a vu que sa personnalité était assez forte. Il va voir un autre éditeur, qui est plutôt un imprimeur, qui s'appelle Ten Hagen à La Haye, qui accepte de tenter l'aventure des livres poches, réellement poches, et d'y placer ce que Mazur appelle des Bildverhalen, c'est-à-dire des histoires en images. Passé les premières semaines d'étonnement, une fois les tirages sortis, les livres vont se répandre dans le pays comme une traînée de poudre. La légende veut que des exemplaires aient été glissés dans des cours de récréation sans passer par la case éducateur, d'où peut-être le retour de bâton plus tard. Rien de plus simple que de cacher un Dick Boss, donc un petit livre de Alfred Mazur, dans sa poche revolver, ou de le lire sous un banc d'écolier. Et évidemment, c'est assez subversif. Coming home late at night.
that's melted. I was standing in the valley of rock, up to my belly in an early fog. I was looking for the road to a green painted house in the Dutch mountains.
Une Dutch mountain.
Oui, les montagnes hollandaises, les fameuses montagnes hollandaises.
Nous sommes en pleine guerre, alors, c'est ça ?
Oui, oui. On avait quitté Mazur et ses petits livres dans les cours de récréation qui étaient lus sous les bancs, sans doute même au cours de certaines messes. et ça circule, ça passe de main en main. C'est à la taille d'un paquet de cigarettes ou d'un jeu de cartes, donc c'est quelque chose qu'on peut cacher, qu'on peut refiler à l'autre. Contrairement aux Robinson, Hopla, qui étaient des grands journaux, ou aux albums de Tintin ou que sais-je, c'est difficile de les cacher. Ici, c'est vraiment fait, entre guillemets, pour ce public populaire.
Et c'était à vendre où ?
C'était vendu...
dans des librairies, quoi.
Dans des librairies, enfin, plutôt des sortes de...
Vendeurs de journaux ou quoi ?
Oui, oui, plutôt de la presse, en fait, ouais. Comme de la presse.
Les kiosques, en fait.
Les kiosques. Et alors, il semblerait, de ce que Rich Thomassen, qui est un peu le spécialiste Dick Boss et Alfred Mazur, que certaines personnes qui vendaient des cigarettes vendaient ça aussi. C'était facile d'avoir une caisse de petits Dick Boss et on pouvait le vendre en même temps que les cigarettes. Il faut se rappeler qu'à l'époque, les cigarettes, c'était pas cher et beaucoup de gens en fumaient. C'était vraiment... Les gens ne savaient pas encore que c'était aussi cancer.
Et les Dick Boss, c'était aussi plutôt pas cher.
Et c'était pas cher. Ouais. C'est-à-dire, on n'hésitait pas. C'était comme aujourd'hui, nos Blue Books sont à 5 euros. C'est un peu l'équivalent et même un petit peu moins cher à l'époque, en 1942. Et alors, en parallèle de ces récits et illustrations, Alfred Mazur, il se passionne, donc toujours pendant la guerre, pour le cinéma et le jiu-jitsu. C'est un art de self-défense japonais. Cette discipline qui est proche du judo avait déjà été adoptée bien des années plus tard, 30 ans plus tôt, par les suffragettes anglaises qui cherchaient à revendiquer leurs droits et leurs droits de vote et leurs droits d'équité. Et alors c'était fort en vogue à ce moment-là. Et c'était encore fort en vogue sous l'occupation, autant par les, donc l'occupation allemande en Hollande, autant par les forces d'occupation, donc les Allemands, que par la résistance, évidemment. C'est-à-dire l'idée de se défendre ne repose pas juste sur l'agresseur, mais aussi sur l'agressé. Donc il ne s'agit pas d'un combat, un sport de combat agressif, mais bien d'un mode défensif. L'énergie de l'agresseur se retourne contre lui. Alors Maz, lui-même, se passionne pour ça, fait du jiu-jitsu, et est formé par un mentor qui deviendra très vite son ami, qui a presque le même âge que lui, qui s'appelle Maurice Van Nieuwenhuizen. Le mentor, il ressemble très fort à un mannequin de mode, et il ressemble à Dick Boss comme deux gouttes d'eau. Mais ils ne font pas un, car un des récits de Dick Boss, intitulé Jiu-Jitsu, c'est celui que Blue Book a décidé de rééditer, intègre Maurice comme un personnage de fiction allié du détective.
Donc, et qui s'appelle Maurice, non?
Et qui s'appelle Maurice Van Nieuwenhuizen. Donc il est même cité, c'est-à-dire sur la couverture du livre de l'époque qu'on a reprise, il est marqué « Une enquête de Dick Boss par Maz, assistée par le célèbre matador de Jiu-Jitsu, Maurice Van Nieuwenhuizen ». Donc tout d'un coup, le personnage réel qui avait un dojo de Jiu-Jitsu se retrouve dans « Personnage de fiction » et « Lui entre toutes les mains ». Alors l'intérêt d'avoir mis Jiu-Jitsu en petit livre, une image par page, c'était que on pouvait avoir un manuel de self-défense par la lecture de la fiction de Dick Boss. Donc, un dessin par page, c'est-à-dire une pause par page, on avait des vraies prises de Jiu-Jitsu qui étaient articulées au sein de l'enquête, dans le cadre de la fiction et de l'enquête de Dick Boss.
Oui, et sans que ce soit didactique. C'est voilà. Vraiment, on est dans la bagarre, mais les positions sont décomposées.
Voilà, il n'y a pas un arrêt et tout d'un coup, il y a un aparté où on expliquerait comment faire une prise de Jiu-Jitsu, mais au cœur même du récit, et pour le besoin du récit, des prises de Jiu-Jitsu sont activées. Et donc les gamins apprenaient tout en s'amusant, pour le coup. Et les lecteurs ont bien compris ce système, et ça a accru encore, plus s'il ne fallait, l'attrait de cette BD de poche, devenue véritable arme de défense. Alors, il y a un petit aparté encore, j'en fais beaucoup, mais j'aimerais bien aller plus loin dans cette idée d'exemplarité. C'est-à-dire que souvent on pense que la bande dessinée ou la lecture d'une bande dessinée est passive, et en lisant un petit peu sur les neurones et sur la neuroscience, on comprend qu'il y a des neurones miroirs qui font que quand on observe dans la vie réelle des personnages bougés, nos muscles sont activés. Donc pas simplement cérébralement, on comprend qu'il y a quelqu'un qui marche, mais nos muscles sont activés en lien avec ce qui est avec le mouvement de l'autre personne qu'on observe. Mais sous un seuil d'excitabilité, c'est-à-dire qu'on ne n'imite pas obligatoirement comme on ferait un banc de poisson où tout d'un coup on se retrouve à regarder quelqu'un qui court et à courir nous-mêmes. Heureusement, on a des neurones inhibiteurs qui fait qu'on ne le fait pas. Peut-être que certaines personnes ont un manque à ce niveau-là et sont fort influençables. D'où la question, et souvent les pédagogues sont revenus là-dessus, avec le bon et le mauvais exemple, en disant « Mais si on montre Superman qui saute par une fenêtre, l'enfant va aussi sauter par une fenêtre et on aura des accidents. Si on montre quelqu'un qui frappe avec un marteau, l'enfant va prendre un marteau et va frapper. » Donc c'est une rengaine qui revient toujours sur les censeurs, sur les éducateurs. Mais il y aurait peut-être des choses à découvrir dans la neuroscience, par rapport à cette activité. Tout ça pour dire que la lecture est physique. La lecture n'est pas juste intellectuelle, elle est physique. Et un livre comme Dick Boss avec Jiu-Jitsu allie les deux. Allie cette espèce de force physique qui était aussi celle de Mazur et de Nieuwenhuizen, et le plaisir d'une lecture, parce que aussi, comme je vous ai dit tout à l'heure par rapport au phylactère, de la lecture, il y en a. Et donc, peut-être qu'une autre émission, je vais essayer. Il y a un centre à Erasme ici, à l'ULB, où les personnes sont spécialisées là-dedans, et ce sera intéressant d'avoir un échange sur ce...
De voir jusqu'à quel point. C'est vrai que bon, si je lève la main inconsciemment, t'aurais toi aussi peut-être envie de lever la main, mais ces neurones inhibiteurs t'en empêchent. Mmh. Mais avec du dessin, en plus, qui se suit, c'est vrai que ça donne...
C'est à la fois intellectuel, parce qu'il y a une déduction qui doit être faite avec deux dessins qu'il faut comparer, etc. Mais il y a aussi l'exemple de la figure qui est dessinée. Alors, avec une bande dessinée abstraite, c'est sans doute moins le cas. Mais avec une bande dessinée où les membres sont représentés, même caricaturés, il y a certainement une excitabilité activée. Alors au Japon, je reviens sur ma petite digression scientifique. Au Japon, les forces d'occupation, donc après la guerre américaine, ont interdit le judo, donc proche du jiu-jitsu. Et il n'est pas impossible que les forces d'occupation allemandes en Hollande aient tenu un œil très attentif au dojo, donc les lieux de formation du jiu-jitsu. D'ailleurs, beaucoup de militaires se formaient dans ces dojos en même temps que des résistants hollandais. Alors en 1942, donc ça revient sur Mazur directement, le plus gros éditeur allemand, l'éditeur populaire, prend rendez-vous avec Mazur pour lui proposer une édition en allemand destinée à être éditée à l'échelle du Reich, et même étalée au territoire nouvellement annexé, comme la France occupée, avec une traduction française. Les prototypes existent, je les ai vus, j'ai vu le prototype allemand et j'ai vu le prototype français. Le premier projet qu'on avait avec Blue Book, c'était enfin d'éditer le prototype français réalisé en 1942. Les collectionneurs ont pris peur et avaient peur qu'on abîme leur relique. Et ça ne s'est pas fait, malheureusement. Peut-être que c'est chose remise. Alors, pour cela, il est demandé à Mazur de faire endosser à son Dick Boss le camp nazi. Ne fût-ce que parce que c'est un éditeur allemand et qu'il voulait que ça corresponde à la nouvelle idéologie, nouvelle Europe.
Il fallait rajouter, j'imagine, des croix gammées un peu partout.
Peut-être pas directement, mais c'était l'idée que c'était...
En noir, peut-être, costume de SS, quoi.
J'aimerais bien en savoir plus. Et Rich Thomason, il y a des interviews, etc., là-dessus. Il semblait qu'il voulait en faire vraiment un SS.
Okay.
Et que c'était plutôt une littérature, comme je vous ai dit, c'est pas spécialement pour les enfants. Les gens qui lisaient les Dick Boss, c'était des adultes. C'était comme un roman policier. Et donc, je crois, à mon avis, et il faudrait vérifier, c'est qu'ils avaient prévu ça comme du divertissement pour les soldats allemands. Ouais. C'est-à-dire que ça aurait été distribué sur tous les fronts, dans toutes les casernes, un peu la manière qu'ont les comics américains à la Libération, ou même pendant la lutte pour la Libération, d'avoir des GI comics, ou des bandes dessinées dans les packs des soldats américains. Donc ça a été un moteur de propagande, et eux voulaient sans doute faire une sorte de contre-propagande avec des comics allemands.
Et donc, qui a existé, en fait, c'est les prototypes de juste traduction français-allemand, et après, ils lui ont dit, bon, maintenant, tu veux pas le déguiser, enfin, l'habiller
voilà.
En SS, quoi,
voilà.
en soldat allemand.
Tout à fait. Et alors, le refus de Mazur le prive à la fois d'une manne d'argent conséquente, d'une popularité européenne, donc qui aurait dépassé les frontières hollandaises, et ça lui empêche de poursuivre les aventures de son détective, parce qu'un refus rend suspect. On est sous l'occupation, les Allemands étaient nazis, en tout cas étaient sous l'emprise du nazisme, et donc c'était pas vraiment facile de dire non. Alors parmi ses compatriotes dessinateurs hollandais, comme Martin Toonder ou Hans Kress, l'attitude de Mazur est vraiment exceptionnelle, d'avoir refusé cet embrigadement par les forces allemandes, par la politique allemande. Alors il passe à la semi-clandestinité. On est très tôt, hein, donc en fait le démarrage de Dick Boss sous la forme à poche démarre en 1941, et déjà en 1942 il a ce problème du succès. On connaît tous ce problème du succès.
Ce fameux problème.
Voilà, et lui le connaît très vite. Alors il passe à la semi-clandestinité, il emprunte de l'argent à son éditeur imprimeur, d'ailleurs il continuera à le rembourser jusque dans les années 60. Pour faire quoi? Pour réaliser un long métrage de fiction avec toujours la même idée de Maurice von Neuenhuysen, de Dick Boss, d'une enquête policière. Mais on est en pleine occupation et il veut faire un film long métrage. C'est assez incroyable.
Il est motivé.
Oui. Alors il n'est pas étonnant, pour rester dans Hollande, que le cinéaste Paul Verhoeven, qui est né en 1938, qui était un de ses lecteurs de Dick Boss sous la forme de Bill Verhoeven, et une fascination pour Alfred Mazur et Dick Boss. Exemple à l'appui, dans une émission, il a démontré plan par plan comment certaines scènes d'action de Basic Instinct, qui était un film vraiment célèbre en 92, une sorte de Hitchcock revisité, il a fait aussi Robocop un petit peu avant, et dans Basic Instinct, il y a des scènes entières d'action qui ont été tirées d'épisodes de Dick Boss, utilisées comme des pré-storyboards. Donc tout d'un coup, l'élan coupé de son compatriote en 1943-44 est prolongé par Paul Verhoeven, qui finalement reprend des éléments et connaît une vie hollywoodienne que, à mon avis, Mazur aurait aimé avoir. Alors au lendemain de la guerre, Dick Boss ressort son format novateur avec son imprimeur, et en 1948, de nombreux auteurs, autres auteurs hollandais, souvent peu aguerris, le concurrencent. Donc ce format-là n'est plus occupé par le seul Mazur, mais d'autres héros sortent de terre. Alors cette débauche de récits alarme les éducateurs, parce qu'en effet, il y a un peu à boire et à manger, mais voilà, c'est assez étonnant. Si vous tapez un peu Bildverhalen sur Internet, vous verrez des choses assez étonnantes en Hollande, mais c'est toujours resté circonscrit à la Hollande. Mais évidemment, c'est sur Mazur, le pionnier, que s'abat la foudre. Alors là, c'est vraiment les éducateurs et c'est vraiment le ministère de l'Éducation qui fait une lettre, une directive aux écoles pour empêcher la lecture de leurs élèves de Dick Boss et des petits livres de poche comme étant de nouveau la Schundliteratur de l'ordure. Alors Mazur est un peu dégoûté, parce que pour le coup, il avait été assez courageux sous l'occupation et assez méritant. Et il est aussi dégoûté de ses collègues dessinateurs en même temps que les institutions. Il quitte la Hollande, il s'installe en Angleterre, et c'est là la deuxième carrière de Mazur, où il va animer une bande dessinée dans la presse qui s'appelait Modesty Blaze, qui est assez célèbre en Angleterre. Il va reprendre Jane, qui était une bande dessinée pendant la guerre, qui était toujours une jeune dame embrigadée dans l'armée anglaise, et qui arrivait toujours à se déshabiller à un moment ou un autre, et c'était supposé remonter le moral des troupes. Lui reprend ça, ça devient Jane, Daughter of Jane, donc la fille de Jane, et il va animer cette bande. Et alors plus tard, ça c'est vraiment, j'ai vu un extrait grâce à Rich Thomason, il s'installe à Malte et il propose un système à lui d'animation pour la télévision, et il va appeler ça tout simplement la Mazimation. Voilà, ça c'est un petit peu le contexte historique pour présenter le premier titre de la collection Blue Book. On a fait deux prototypes pour démarrer le projet. Il y avait celui dont je viens de vous parler, qui est Jijutsu, de l'enquête de Dick Boss fait par Mazur. Et en parallèle, l'autre prototype, c'était un auteur contemporain. L'idée, c'était de ne pas rester sur du passé, de réinvestir ce modèle-là. Et alors la personne, j'ai contacté quelques personnes pour relancer ce format. Celui qui a été le plus rapide à répondre au défi, le plus rapide à rebondir, c'est un auteur vivant à Jodogne qui s'appelle Dimitri Pio.
Et puis on va en parler. Juste un petit point, les aventures de Dick Boss, elles s'arrêtent quand ? Au final, quand il va quitter la Hollande ?
Non, ça continue. Parce
il
que
continue
ça,
encore à dessiner.
En fait, il y a eu plusieurs, il y a eu trois séries, ouais. Si je compte bien. La première série de guerre, ouais. La deuxième série en 48, enfin la Libération, et puis une troisième série dans les années 60, où il reprend son personnage de Dick Boss, et il voulait même l'appeler Boss, Son of Boss, dans le sens où ça ne pouvait plus être le même au niveau de... il aurait trop vieilli, donc c'était son fils qui reprenait le collet.
En tout cas, voilà, Blue Book 1, c'est le premier, en fait, finalement, à part le prototype en français qui existe de Dick Boss.
Oui, c'est la première fois qu'il est traduit réellement en français. Et distribué, et qui sort, bien que timidement, parce qu'on n'est pas, on est une petite structure, mais qui sort enfin des frontières hollandaises et qu'on peut découvrir Dick Boss dans le texte.
Les premiers prototypes, ils ont daté de quand ? Enfin, les prototypes Blue Book ?
Ça prend du temps. C'est-à-dire que nous, au départ, on part évidemment du format imaginé par Alfred Mazur. On discute beaucoup de formats avec André Moons. Donc quand je dis on, c'est Dimitri et moi et puis les personnes autour de nous, sur le format pour que ça soit économique. Et André Moons nous aide à ce niveau-là, qui a beaucoup travaillé sur les Blue Book aussi, comme graphiste et comme conseiller. Et là, on a eu un autre conseiller qui est super, qui vient de prendre sa pension, qui était imprimeur, qui s'appelle Jan de Meester. Et lui, en réfléchissant avec lui, avec les petits Blue Books, avec les livres de Mazur et puis notre projet, on a trouvé un format idéal qui n'est plus 12,8, mais 11,6 x 7,6, pour des raisons de format et d'économie. Et là, on peut faire 4 livres en même temps. Ça nous permet de les imprimer en même temps, 4 titres différents, et puis de les couper ensemble. Et ça permet que le prix de revient à l'unité revenait à ce moment-là à 1 euro de fabrication l'unité. Et ça nous permettait de le vendre à 5 euros. Donc ça a été un long processus de format, même si il n'y a que 4 mm qui ont varié entre la version proposée par Masure en 41 et la nôtre. Mais Masure lui-même et son imprimeur Ten Hagen ont parfois un peu varié les formats. C'est-à-dire, si vous tombez par hasard, et on tombe rarement, malheureusement, par hasard sur les Masures d'époque, il y a un moment où il s'est orienté plus vers les poches. Et nous, en tout cas, moi, j'ai considéré qu'aller vers le poche, c'est-à-dire le poche qu'on ne sait plus mettre en poche, n'avait plus aucun intérêt. Et l'intérêt des Bildverhallen de Masure, c'était ça. C'était réellement un objet qu'on porte sur soi.
Et bah, du coup, dans cette carte blanche, donc, avec Blue Book, la première peut-être d'une série, on va enfin vers le Blue Book numéro 2 de Dimitri Piot, Salaryman. Même format, donc voilà, édité, réfléchi en même temps. Et malheureusement, Dimitri n'est pas en Belgique, il est même assez loin, il est à Osaka, je crois, au Japon. Et donc, bah, tu lui as envoyé une série de questions auxquelles il a réussi à nous répondre par WhatsApp. Donc, bah, on va rentrer là-dedans. Et en fait, ses réponses étant assez agréables à écouter, peut-être même qu'on arrivera à ne pas mettre nos questions. Donc voilà, on va se mettre un petit morceau pour changer. Si on était un peu dans les montagnes hollandaises, on va plutôt prendre quelque chose pour un peu traverser les continents et aller du côté de l'Asie et du Japon avec Dimitri. C'est une toute autre démarche. Et puis bah, vous allez l'entendre assez... voilà, calmement et distinctement parler de tout ça en prenant son temps. Mais voilà, un peu de musique avant ça. Un titre qui s'appelle Sonatine, extrait d'un film de Takashi Kitano, Act of Violence.